France Inter, il est 19h. Le journal Frédéric Barrère, bonsoir.
Bonsoir à tous. La France discute avec les talibans. Emmanuel Macron en Irak pour un sommet régional précise que ces discussions portent sur les opérations humanitaires pour poursuivre les évacuations. Nous serons à Bagdad dans un instant. En Afghanistan, où les évacuations se terminent, le calme est revenu. À l'aéroport de Kaboul, le pont aérien se poursuit jusqu'à la date butoir, mardi prochain. Témoignage dans ce journal de Cyril Payen de France 24 à Kaboul. La rentrée politique à droite comme à gauche ce week-end. Les socialistes souhaitent une candidature Hidalgo à droite côté républicain. Les cadres du parti et les candidats à une éventuelle primaire promettent de jouer collectif. Dans ce journal également, 7e samedi de manifestation contre le pass sanitaire et en football. Avant le déplacement demain du PSG à Reims, le feuilleton Mbappé se poursuit et la présence tant attendue de Messi dans le groupe n'est pas confirmée. La météo pour demain, des nuages et des averses dans le nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Le sommet régional à Bagdad en Irak a pris un tour particulier. La crise en Afghanistan et la menace du groupe État islamique ont été au cœur des débats lors de cette conférence co-organisée par la France et l'Irak. Emmanuel Macron a mis l'accent sur l'urgence humanitaire en Afghanistan et la poursuite des opérations d'évacuation. La question humanitaire prime, a expliqué le président Macron. Des discussions ont lieu avec l'aide du Qatar sur place à Bagdad, Bertrand Galichet.
L'intervention du Qatar, mais aussi les discussions directes de la France avec les talibans, sont confirmées ce soir par Emmanuel Macron, le sujet étant la poursuite des opérations humanitaires pour sauver des centaines d'Afghans à qui des certificats ont été remis par la France.
Nous sommes en train de mener des discussions. Elles demeurent encore fragiles et très provisoires. C'est pourquoi je serai extrêmement prudent dans la réponse que je vous apporte. Mais oui, il y a des discussions qui se sont entamées avec les talibans sur le sujet des opérations humanitaires.
Après le départ des États-Unis, ces opérations de pont aérien ne pourront se mener que dans un cadre négocié avec les talibans, sur le plan sécuritaire, admet aussi le chef de l'État. Emmanuel Macron salue le rôle du Qatar, un pays devenu l'interlocuteur incontournable des Occidentaux dans leur contact avec les talibans. Notre objectif est de procéder à des évacuations ciblées, ajoute le président qui met en garde le nouveau pouvoir en place à Kaboul. La poursuite de ce pont aérien en sécurité est une condition d'engagement politique envers les talibans, qui suppose d'autres prérequis de la part des islamistes, le respect des droits constitutionnels, du droit humanitaire et des droits des femmes, mais aussi une ligne rouge à ne pas franchir avec les groupes terroristes. Bagdad, Fabien Gosset, Bertrand Galichet, France Inter.
Et Emmanuel Macron a précisé que la France avait évacué 2834 personnes d'Afghanistan depuis le 17 août dernier. En Afghanistan, à Kaboul, après des jours de chaos, le calme est revenu à l'aéroport, les opérations d'évacuation se terminent. Les talibans qui assurent la sécurité du pont aérien, il y a quelques jours de la date butoir, mardi prochain, c'est donc maintenant les talibans qui remettent aux Américains les Afghans qui souhaitent quitter le pays. Le témoignage à Kaboul de Cyril Payen, l'envoyé spécial de France 24, l'un des rares journalistes encore présents en Afghanistan.
On sent bien ici qu'on n'est plus du tout dans la même atmosphère. C'est comme si la capitale afghane retenait son souffle, en fait, puisqu'on est à quelques jours de cette date butoir du 31 où le pays va résolument basculer avec ce départ de milliers de soldats américains. Et là, dans le ciel de Kaboul, ce soir, on n'est plus du tout dans le même schéma que ces derniers jours. Il y avait des rotations aériennes incessantes, des transports de troupes qui évacuaient des ressortissants afghans. On l'a vu cette semaine. Là, il n'y a plus beaucoup d'avions. D'ailleurs, les rotations britanniques, ça a été confirmé par le gouvernement anglais, ont cessé ce soir. Donc, il n'y a plus que les Américains qui essayent d'évacuer les quelques milliers de candidats à l'exil afghan qui étaient retranchés à l'intérieur de l'aéroport militaire de Kaboul. Tous les milliers d'Afghans qui tentaient encore leur chance à l'extérieur n'ont plus aucune chance maintenant d'être évacués.
Cyril Payen, l'envoyé spécial de France 24 à Kaboul. Et puis concernant la frappe américaine l'année dernière contre le groupe État islamique, le Pentagone précise que deux cibles importantes de Daesh en Afghanistan ont été tuées, un organisateur et un opérateur. Il y a également un blessé, membre du groupe État islamique. Selon le Pentagone, la frappe de drone cette nuit, l'année dernière, n'a fait aucune victime civile. La rentrée politique à gauche et à droite ce week-end, à 8 mois de l'élection présidentielle. À Blois, dans le Loir-et-Cher, aux journées d'été du PS, la candidature non officielle d'Anne Hidalgo est dans tous les esprits. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, souhaite voir la maire de Paris se présenter. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Alors à Blois, Olivier Faure en est convaincu, Anne Hidalgo peut l'emporter devant les militants socialistes et à la présidentielle.
Oui, le match n'est pas joué. Olivier Faure, le patron du PS, décline cette métaphore sportive sur tous les tons. Le match Macron-Le Pen est même en train d'être sérieusement perturbé, selon lui, par l'irruption prochaine de la nouvelle recrue de l'écurie présidentielle à gauche. Le transfert du siècle, Anne Hidalgo qui s'apprête à quitter l'hôtel de ville de Paris pour porter les couleurs socialistes en 2022. Alors quitter est un bien grand mot, hein. Il s'agira en réalité d'un intérim porté par son premier adjoint, Emmanuel Grégoire. À Blois, la maire de Paris s'est dévoilée un peu. Elle croit en la renaissance du PS. Ne s'aveugle pas sur les erreurs du passé, mais elle entend prendre sa part au combat élyséen. Parce que l'urgence climatique, parce que les inégalités sociales creusées, dénoncent-elles par la gouvernance d'Emmanuel Macron, elle est prête, elle a envie et elle l'a glissé. Lorsque son livre, Une femme française, sortira le 15 septembre prochain, ce sera le livre d'une candidate.
Laurence Perron avec Olivia Branger, merci. Côté Les Républicains à La Baule, en Loire-Atlantique, on multiplie les appels à l'unité, primaire ou pas, les militants veulent un seul candidat, les cadres du parti et les prétendants à l'investiture veulent aussi un candidat unique et il va falloir faire des efforts, prévient Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains.
C'est le plus difficile parce que, autant le dire, pour notre famille politique, c'est pas naturel. On a, si j'ose dire, les défauts de nos qualités. Parce que on attache du prix à l'indépendance d'esprit. On excelle dans l'art de mettre en avant nos différences, nos sensibilités. Parce que très souvent, on accorde là aussi beaucoup de valeur, d'abord aux individus plutôt qu'aux partis. On adore aussi se perdre dans des querelles d'ego, dans des querelles gauloises. Le problème, c'est que cet esprit gaulois, il ne nous mènera certainement pas à la victoire. Nous sommes au mois de septembre bientôt et nous ne savons toujours pas si nous aurons un processus de désignation, une primaire, un processus de départage, si ce sera ouvert, pas ouvert. J'ai donc considéré que le pire n'était pas écarté. Et pour moi, le pire, c'est la division. Si j'ai souhaité prendre cette décision, c'est parce que j'ai voulu lancer un appel à l'union, pour dire que trop de division, en réalité, trop de dispersion, ne mènera nulle part.
Bruno Retailleau avec Élodie Fauré. 7e samedi de manifestation contre le pass sanitaire. 200 rassemblements étaient annoncés partout en France et alors que les deux derniers week-ends ont marqué le pas de la mobilisation, les autorités s'attendent à une nouvelle décrue du mouvement et les chiffres semblent traduire un affaiblissement de la mobilisation. À Marseille, où l'on retrouve Clémence Gourdon-Négrini. Bonsoir Clémence. Le cortège a réuni, selon la préfecture, 3000 manifestants.
Et un peu plus, 4000 selon un collectif qui s'est créé pour contrecarrer les chiffres de la police. L'idée, c'est de répondre au ras-le-bol des manifestants comme Laetitia.
Un chiffre, je peux vous le faire parler dans tous les sens. Je peux aussi bien le mettre en positif qu'en négatif. Aujourd'hui, les chiffres sont faussés, on le sait tous. Mais ça fait longtemps qu'on le sait.
Et quel que soit le bon chiffre, ce que tous promettent ici, c'est qu'il y aura bien plus de monde samedi prochain avec la fin des vacances. Mais cette promesse, elle était faite avant que des affrontements aient lieu contre la police. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé à Marseille, dont certains sont toujours sous le choc.
Voilà, on était sur le Vieux-Port, il y avait une manifestation, on devait aller sur la mairie. Et les forces de l'ordre nous ont arrêtés ici, on est resté en statique pendant plus d'une demi-heure. Et leur commandant a donné le feu vert d'intervenir. Et quand ils sont intervenus, ils ont fait tomber tout le monde, ils ont fait tomber une personne âgée, un supporter de l'OM par terre. Ils ont agressé une femme que je connais qui vient souvent aux manifestations et qui s'est retrouvée par terre avec sa fille.
L'homme affirme qu'il a tout filmé et qu'il va porter plainte. Après 5 heures de manifestation, les antipasses sanitaires ont fini par se disperser. Il y a 30 minutes environ, au moins un a été interpellé.
Et parallèlement aux manifestations anti-pass, des recours ont été déposés dans plusieurs départements contre l'instauration du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Et bien aujourd'hui, dans le Haut-Rhin et à Versailles, les tribunaux administratifs ont suspendu les arrêtés préfectoraux rendant obligatoire le pass sanitaire à Strasbourg, Mulhouse, mais aussi dans l'Essonne. Et après les Yvelines, mardi, l'Essonne est donc le deuxième département d'Île-de-France où l'arrêté préfectoral imposant le pass sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux est suspendu. En Allemagne, Allemagne. C'est une décision de la ville de Hambourg qui provoque une polémique. À partir d'aujourd'hui, les 2 millions d'habitants de Hambourg n'auront libre accès aux restaurants, théâtres et autres lieux de culture que si ils sont vaccinés ou guéris du coronavirus. Plus qu'un pass sanitaire, une vaccination obligatoire en quelque sorte, qui fait débat. Berlin, Ludovic Piétenu.
En Allemagne, la vaccination n'est pas obligatoire. Une telle décision ressemble, sans le dire, à l'obligation vaccinale, peut-on lire dans la presse ces jours-ci à côté du mot « discrimination ». Dans les faits, chaque établissement est libre d'appliquer la règle qu'il préfère et donc d'accepter aussi les personnes testées négatives. En revanche, ça ne peut pas être le cas du personnel. Certains établissements vont donc attendre encore un peu avant de passer à cette règle plus restrictive. C'est le cas du monde de la nuit, la plupart des clubs et des salles de concert et de certains théâtres. Certains cinémas ont d'ores et déjà refusé le changement, préférant laisser de l'espace entre les spectateurs. D'autres disent ne pas avoir le choix, c'est le cas des petits établissements du monde de la gastronomie. Accepter ce nouveau modèle qui met fin à la distance à respecter entre les tables, c'est, disent-ils, leur seule façon de survivre. Dans le reste du pays, les 15 autres États allemands, on observe le changement en se demandant à qui le tour. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
La Ligue 1 de football, bien tourmentée dans l'attente d'une décision concernant Kylian Mbappé, toujours en ce moment, entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le feuilleton Mbappé est également très suivi à Reims, où le PSG doit se rendre demain pour la 4e journée de Ligue 1. Et lors de la conférence de presse d'avant-match, aujourd'hui, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a évoqué le cas des membres du trio magique Mbappé, Neymar et Messi pour le match à Reims. Et il est resté flou, Marine Clet.
L'entraîneur a été pour le moins évasif. Ils feront sûrement partie du groupe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé était à l'entraînement ce matin. L'enjeu de sa présence à Reims est grand. S'il n'est pas dans le groupe, il sera considéré dès lors comme un joueur pouvant être transféré. Mais Pochettino tempère. Mbappé ne m'a pas dit qu'il voulait partir. Le Real Madrid, lui, s'impatiente. Sans réponse du PSG demain soir, il menace d'annuler leur offre de 180 millions d'euros. Concernant Messi, l'entraîneur parisien est tout aussi mystérieux. Nous devons analyser et voir s'il peut être dans l'équipe. C'est normal que le doute existe. Si Messi ne joue pas demain, il fera son tout premier match pour le PSG au Parc des Princes, le 12 septembre contre Clermont. Le groupe de joueurs qui affrontera Reims sera connu demain en milieu de matinée. En attendant, Kylian Mbappé publie des photos de son entraînement sur les réseaux sociaux, maillot parisien sur les épaules et sourire aux lèvres.
Et cet après-midi, lors de la 4e journée, quelques jours après les débordements survenus lors du match contre Marseille, eh bien Nice s'est bien repris. Nice a battu Bordeaux 4-0. La météo pour demain.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel Golinski.
Demain, nous allons retrouver un ciel relativement chargé entre le nord de la Seine, le Grand Est, le Val-de-Saône et le Berry, avec un vent de secteur nord sensible et désagréable, et toujours un risque d'ondées, notamment près de la Belgique, sur l'Alsace et la Franche-Comté. Plus au sud et à l'ouest, l'ambiance sera ensoleillée avec des ondées orageuses possibles sur la montagne Corse et le Mercantour l'après-midi et un mistral qui sera modéré. Un dimanche où les températures vont stationner à un niveau de début d'automne sur les deux tiers nord, avec 19 à 22 en général à Brest, Caen, Lille, Reims, Paris, Tours, Nevers, Nancy, Strasbourg, Bourges, Lyon ou encore à Besançon. Il faudra descendre vers Cognac pour avoir 25 degrés. Sur les régions méridionales, il est prévu 26 à 27 près de la Garonne, mais seulement 23 sur le Béarn et le Pays Basque. Il fera 29 sur le Languedoc-Roussillon, 28 sur la Camargue et 26 sur la Corse.
Jean-Michel Golinski de Météo France.